Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir mes chers invités.
Bonsoir.
Bonsoir le live. Et bonsoir Jean Massier, Enjoy Phoenix et Charlotte Vautier.
Bonsoir voilà. Cyprien.
Bonsoir Cyprien. Attendez, j'ai même pas le chat. Charlotte, comble.
J'ai même pas le chat. Je l'ai pas encore.
Attendez, je peux pas vous lire. C'est l'angoisse. Racontez un
comment
truc passionnant
va, Jean,
maintenant.
Comment voilà. Ça va Marie?
Bah ça va bien.
Ouais.
Ça ira mieux quand on aura le chat.
Il est pour nous.
Les forceurs, tu sais.
C'est ça.
Est-ce que vous avez passé un bon week-end?
C'est bien, c'est bien.
C'est vrai qu'on est lundi, en fait.
Pas ouf, mais...
Oui, j'étais en train de me faire la réflexion ouais, de quel week-end elle parle.
Oui, en fait. Toi, Marie, t'as fait trois semaines en une journée, là.
Ouais,
en fait,
Oui, voilà, aujourd'hui, non, j'ai une journée de fou. Mais c'est cool. Mais enfin, le week-end, chez moi, ça n'existe pas vraiment. Donc, en fait, du coup, quand je dis même jamais bon week-end, tu vois, c'est pas partie de mon vocabulaire.
en tout cas, aujourd'hui, on va parler... Enfin, il y a de la politique, il y a du YouTube, il y a du Twitch.
Toutes mes thématiques que j'adore.
Ouais,
j'adore. D'ailleurs, les gens me disent, arrête de parler politique, Cyprien, c'est agaçant. Jean Massier, tu es streamer.
Ouais.
C'est ton activité principale.
Ah oui, totalement.
Qui parle notamment de politique. Tu fais aussi un peu de jeux vidéo.
Un petit peu, ouais.
Voilà. Marie, toi, tu. Enjoy Phoenix.
Oui. Enjoy.
Enjoy Phoenix. Marie. Tu es youtubeuse. On a dû commencer en même temps, je pense. Depuis maintenant, un milliard d'années.
2011.
Crois.
Ouais, 2011.
Qui parle de lifestyle, t'as fait de la beauté.
J'ai fait un peu tout, voilà. Et là, je suis sur Twitch.
Tu es également sur Twitch.
Voilà.
Et Charlotte, on ne te présente plus parce que tu es toutes les semaines, donc me permets.
Écoute.
On a un petit générique. Avant, on a préparé du coup des news, on a des petits jeux, on a ce genre de contenu pour passer une bonne émission.
Let's
Malheureusement, go. Pierre n'est pas là puisqu'il a des raisons personnelles. Il ne peut pas être là avec nous.
On l'embrasse, bien
exactement.
Sûr.
Exactement. Et on a un générique de l'émission au début.
Oh, let's go.
Il faut que vous dites votre blaze dans le trou. C'est toi qui vas commencer.
Oh, let's go. Vas-y.
Générique.
Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable
Jean Massier.
Oh. Ainsi que l'inimitable
Enjoy Phoenix.
Sans oublier
ça
l'incorrigible
Charlotte Vautier.
301 vues, c'est. Ah merde, j'ai oublié, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant.
Il t'oublie tout le temps, il est chiant.
C'est trop bien,
ah ouais,
générique.
C'est trop cool.
Et c'est trop de la balle.
Vous êtes carré. Franchement, je trouve que ça s'est trop bien passé. Je suis très épaté. Vous êtes nos invités les plus carrés de l'histoire.
La semaine dernière, c'était très compliqué.
Ouais, franchement. Non, mais bref, on a de tout de rien. On est très content de vous avoir sur le plateau. Alors, on a quand même deux mondes qui s'affrontent, j'ai envie de dire.
Mais pas tant que ça. Mais tu vas voir que pas tant que ça.
À ma droite et aussi de la politique. Mais il s'avère qu'on a trouvé un peu des points communs, plein de choses. Et vous faites aussi, tous les deux, pas mal de jeux vidéo sur vos chaînes Twitch et ailleurs. Donc en vrai, on a trouvé des points communs.
Mm-hmm.
C'est pas mal. On va commencer. Qu'est-ce que t'en penses avec les actus?
Les petites actus.
Voilà.
Alors,
Bumper actu pour la régie. J'ai plus de bouton. Ouais, on a des petites animations, mais le bouton, je l'ai perdu. Donc j'ai demandé à la régie. Désolé.
Mais c'est vrai que d'habitude, Pierre, il a toutes les actus. Donc... là, on a dû
mais attends,
diguer un peu
tu
plus.
Tu sais que quand Pierre ne vient pas, les actus continuent. C'est aucun problème.
Hein. Bah, je suis pas sûr, je sais pas.
C'est Pierre qui fait les actus, en fait.
Il fabrique.
C'est lui qui décide.
Ouais. Ouais.
Que s'est-il passé sur Internet, Charlotte?
Alors, cette semaine, il y a un truc très marrant qui s'appelle les Squidcraft Games. Yes, j'ai réussi à le dire. C'était galère.
Attends, tu vas nous parler de jeux vidéo. Alors, Charlotte qui nous parle de jeux vidéo, c'est génial. C'est souvent le meilleur moment de l'année. C'est quoi ça, les Squidcraft?
Sauf que.
Attends, Squidcraft Games, pardon.
Ça termine mal. Alors, Squid, tu vois, je recommence à parler sur Squidcraft Game, c'est un rassemblement de 150 gros streamers hispanophones, dont la majorité habite à Andorre, parce que je sais pas si vous savez, mais Andorre
c'est leur Malte à eux.
Ouais, en gros, exactement.
Ah ouais.
C'est une sorte de paradis fiscal.
Ouais, dans les Pyrénées.
Ouais, exactement.
Oui, on achète donc les clubs là-bas, normalement.
Oui, c'est ça, c'est là qu'on va acheter les clubs.
Pas l'essence moins chère. Et la particularité d'Andorre, c'est que Internet y est très, très bon. Ils ont un réseau
genre,
internet.
Tout est fibré, voilà. Alors que c'est au milieu de la montagne,
c'est
lunaire.
Okay. Et donc, il s'avère qu'il y a beaucoup de Twitchers et de YouTubers. Bah,
alors là,
là-bas.
Tu dis fibre plus évasion fiscale.
Ouais, là,
t'as plein de streamers qui font
Let's go.
That's my land.
Et du coup, ils se sont dit bon, on fait un énorme événement inspiré de. Enfin, un énorme événement sur Minecraft inspiré de Squid Game.
Okay.
Ils étaient 150.
Et j'imagine qu'il doit en rester qu'un. C'est le principe de Squid Game,
mais c'est un peu les Fight for Sub de Zerator, c'est ça.
Tu gagnais 100 000 euros quand même.
Ah oui, putain,
100 000 dollars. 100 000 dollars, donc voilà. Tout le monde était à fond.
Ouais,
2 millions de vues en simultané pour le pic sur Twitch.
Attends, de spectateurs simultanés.
De spectateurs, c'est le record. C'est le record.
Ah bah carrément.
Ah ouais,
ouais.
Voilà,
donc millions, vraiment, énorme événement. Sauf que ça s'est mal terminé.
C'est souvent le parti qu'on préfère dans l'émission.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est très mal terminé. Tout s'est arrêté très vite parce qu'il y a des hackers qui ont.
Ils se sont fait DDoS ?
En fait, qui n'ont pas hacké directement Twitch ou l'émission ou l'événement, qui ont été hackés carrément le pays.
Quoi ?
Pendant 30 minutes, Andorre n'a plus eu internet du tout.
Merde !
Attends, ils ont piraté.
Le internet de Andorre.
Il s'était passé un truc similaire aux The Event l'année dernière, mais c'était pas.
Ouais, c'est
c'était
pas tout Internet de la France pays, qui est tombé. Non, donc là, c'est tout. Genre, Andorre n'avait plus d'Internet pendant 30 minutes.
Pendant 30 minutes, alors qu'ils sont quand même. C'est censé quand même être une royauté ou principauté, je sais pas lequel des deux. Une principauté.
T'as le droit d'être flou dans cette émission, c'était.
Une principauté qui excelle dans ce domaine-là. Et donc, le gouvernement a expliqué que c'était une attaque, la plus grosse attaque Internet qu'ils aient jamais eue. Voilà. Et il y a un des organisateurs qui explique dans Le Monde, qui explique qu'avant les hackers te dégageaient de ta partie de Call of Duty, maintenant les hackers font tomber Internet dans un pays entier. Donc,
putain, mais
voilà.
C'est incroyable cette histoire.
Mais, oui.
Alors je suis obligé de demander, vous avez déjà eu des problèmes ? Parce que là, vous êtes sur Twitch très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Tous les soirs,
quasiment.
Oui, ouais.
Tous les jours.
Moi, tous les jours, ouais.
Donc, tu as ton émission, Jean, qui est le
jeudi soir.
Et t'as déjà eu des problèmes
non,
techniques.
Non, pas de cet ordre-là. Non, jamais de cet ordre-là. Non, on a eu des problèmes techniques.
Il y a peut-être un truc de régie.
Des bugs de régie, on embrasse la régie, toutes les régies du monde.
Toutes
les
régies du monde.
Mais non, on n'a jamais eu de problème de ce niveau-là. On a des casse-couilles dans le chat, mais c'est tout ce qu'on a. On n'est jamais allé dans ces extrêmes-là. Et ce serait extrêmement pénible.
Il y a eu dans Popcorn, il y a quelques semaines.
C'est arrivé.
Tout Internet. Enfin, je sais plus si c'était Internet qui avait down et tout. Il y a eu quand même des.
Ah, les pauvres.
Et historiquement, sur plein d'émissions, il y a des petits problèmes d'Internet. Toi, Marie, t'as eu une grosse galère pendant un live, un truc. Technique
Non mais moi c'est toujours les trucs tu sais genre les caméras qui surchauffent, les trucs comme ça, mais ça va jamais jusqu'au à la panne internet ou au hack, jamais.
Ouais, mais c'est carrément tout un pays.
Non mais là c'est chaud,
c'est chaud. Il se passait un truc assez incroyable quand Squeezie a fait son émission SOS Streamer, sa vidéo où il va aider un jeune streamer qui a quelques followers etc. pour développer son activité. Donc ce gars-là qui s'appelle Zod a eu une grande visibilité. Et donc j'en pense un peu à ces hackers là, qui ont fait tomber quand même tout Internet dans un pays. Ces gars-là avaient coupé, des haters, on ne sait pas d'où ils sortent ces gars-là, mais ils avaient coupé le réseau
d'Internet,
de fibre.
Ils sont dans son quartier, ils ont creusé une tranchée, ils ont pété le câble. Quoi.
J'imagine que c'est un boîtier ou un truc comme ça. Oui. Et du coup, ce gars-là, en fait, il avait la visibilité pour pouvoir faire ses streams, ses trucs, et des petits...
Des
petits cons. Mmh. On ruinait tout ça. Donc c'est vrai que les haters, parfois, ils sont fortement déterminés.
Ouais.
Mais du coup,
je me demande vraiment quel était leur intérêt, en fait, de faire ça.
Enfin, pure jalousie.
Pure jalousie.
Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein.
Non, mais c'est
des hackers jaloux qui ont...
C'est de l'amusement trollesque.
Ouais.
Ils ont dû être cinq à rigoler comme des baleines en disant on vient de faire tomber Andorre, MDR, regarde leur stream il est coupé. C'est ça qui a dû les amuser, mais c'est de l'amusement de merde. Enfin, au demeurant, c'est déjà arrivé à la télé, ces trucs-là. Des envahissements de plateaux, des manifs, des gens qui éteignent la lumière sur des plateaux télé. C'est arrivé dans l'histoire aussi, des gens qui. Alors en général, c'était pour des revendications politiques.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y avait un candidat qui était invité, un truc qui leur plaisait pas.
Parce qu'il y avait une revendication des hackers.
Là, non,
pour
Andorre. Ah,
non, ils voulaient peut-être un autre lobby de serveur.
Ils ont
été revendiqués.
Ils ont même pas détourné l'argent. Enfin, c'est vraiment.
Non, mais c'est ça. Ils ont même pas demandé de rançon. Dans l'article, ils expliquaient que d'habitude, il y a une rançon qui est demandée, là même pas. Donc, vous jouez à Minecraft ?
Ouais, carrément. Carrément, je joue à Minecraft.
C'est quoi vos jeux un petit peu, puisque là, vous êtes régulièrement sur Twitch, il y a un peu des jeux là qui vous font kiffer. Bah toi, Marie, c'est quand même beaucoup WoW depuis des années, World of Warcraft.
Ouais, moi c'est World of Warcraft depuis quasiment 15 ans en fait. Donc après je teste d'autres jeux, il y en a plein que j'adore et d'autres que je découvre aussi grâce à Twitch, mais principalement c'est WoW. Ouais, c'est vraiment mon fil rouge quoi.
Moi c'est Flight Simulator.
Ah ouais, ouais. Attends, t'es avec les manettes et tout
Non. Je suis un gros turbo passionné, mais depuis 25 ans, j'ai grandi avec ce jeu. J'ai appris à jouer sur les genoux de mon papa, sur l'ordinateur. C'est vraiment un truc très, très perso. Et en fait, j'ai grandi avec ce jeu, j'ai toujours acheté les nouvelles versions. Et là, comme vous le savez, il y a Flight Simulator 2020 qui est sorti après
Alors,
des années de développement.
Alors, comme vous le savez, non, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est?
Oui, j'avoue.
Pardon, Flight Simulator, c'est un...
Tu te doutes de ce que c'est quand même, Charlotte, Flight Simulator?
Mais oui, c'est un simulateur d'avion. Et donc, en fait, le but du jeu... En fait, c'est un gros bac à sable. Le but du jeu, c'est d'essayer de voler aussi près de la réalité. Donc, tu es un pilote dans ton avion et tu vas te faire chier à essayer de maintenir ton altitude, d'essayer de naviguer vers l'aéroport et tout, d'atterrir aussi bien que possible. Et en fait, tu essayes de simuler ce que ferait un vrai pilote, y compris en cas de problème avec la météo, enfin tout un tas de
trucs. Mais j'ai vu que tu suivais pas mal de comptes d'avions.
Je suis un gros passionné d'avions. J'adore ça. Je suis un gros passionné
d'avions. Mais d'ailleurs, tu fais pas mal de trucs dans l'écologie aussi.
Ouais, et bah tu vois,
comment
tu fais?
Justement, je fais du simulateur. Il y a plein de gens qui m'ont demandé est-ce que tu as essayé de passer ton brevet de pilote et tout. J'avais commencé à une époque mon brevet de pilote. Il y a un moment, j'ai rêvé de devenir vrai pilote d'avion. Okay. Et c'est vrai qu'en partie pour des raisons écologiques, je me suis rappelé que, bah en fait, l'avion, ça n'a pas d'avenir. Que si dans des situations très particulières, sécurité civile, pompiers, ok, très bien. Mais bon, le voyage à l'autre bout du monde, c'est un truc qui est amené à s'arrêter. Et du coup, bah moi, je prends mon plaisir derrière un ordinateur. Je consomme pas de carburant, tu vois.
T'es déjà dans le métaverse avant, quoi.
C'est un peu ça.
Ouais, en vrai. Tu t'es dit, et tout là, les manettes et tout.
Ouais, j'ai mis beaucoup trop d'argent parce qu'en plus, c'est des jeux sur lesquels tu achètes des add-ons et tout pour améliorer ton jeu.
Plus.
Et sur l'ancien jeu, j'avais calculé, j'avais claqué 600 balles, je crois, en 7 ans de jeu. Donc, tu sais, t'achètes un nouvel avion, un nouvel aéroport, un nouveau moteur météo, c'est un peu con.
Ça nous parle pas trop, je vais pas te mentir.
Et bref, et donc, ouais, les manettes et tout, ouais, j'ai tout.
Alors, c'est marrant parce que quand je t'imaginais, toi, un peu dans le gaming, je t'imaginais vraiment jouer à ce genre de jeu. J'ai appris pourrait jouer, Jean-Massier.
Bien compliqué.
Probablement Flight Simulator. Est-ce qu'il y a d'autres news? Il se passait d'autres choses sur Internet?
Ouais, il y a la mise à jour iOS.
Ok. Alors c'est une news, ça. Ouais. Je ne juge pas, Charlotte. C'est pas parce que Pierre n'est pas là que
voilà,
tout part.
Non, c'est parce qu'elle propose le Face ID avec le masque. Bon, la grande news.
Donc on peut te reconnaître, genre juste les yeux.
Ouais. Mais c'est surtout qu'il y a 37 nouveaux emojis.
Ah, c'est important ça. Alors, c'est quoi ton
préféré? No, we are joking.
On adore. C'est quoi ton emoji préféré?
Est-ce que tous les emojis Apple sont également sur Android ou Mais moi, je pense que ça, c'est
des équivalences.
Je crois qu'il y a des équivalences, mais je suis sûre que c'est pas les mêmes.
Ils arrivent certainement après, ouais.
Mais non, moi je pense que ça arrive. La vérité, je pense que ça arrive en même temps. C'est juste qu'ils mettent ceux de iOS. Mais bon, on a des vrais débats. Tu vois, il y a la politique, plein de choses.
En tout cas, il y a une bouée de sauvetage. Il y a
des haricots rouges.
C'est vrai qu'il y avait une grosse demande d'haricots rouges.
Je comprends pas.
Haricots rouges, parce que l'aubergine, ça commençait à.
Ouais, et non, surtout, ils ont
mis. Il y a un vaccin.
Il y a un vaccin.
Attendez,
il y a un vaccin.
Non, c'est une béquille.
Ah, c'est une béquille.
Ah, autant pour moi.
La seringue, elle existe depuis longtemps.
Elle existe déjà.
La seringue existe déjà.
Dans le chat, les gens sont pas d'accord. Ils disent c'est pas les mêmes et d'autres équivalences. Bah, mettez-vous d'accord.
Gros débat.
En parlant d'émojis qui existent et qui n'existent pas.
Oula.
Ah oui.
C'est un quiz.
C'est un quiz.
Ah, il faut connaître nos.
Je vais vous dire des émojis. Vous allez me dire s'ils existent ou non.
Ok.
Déjà, est-ce que vous avez un préféré là dans les nouveaux émojis qui sont arrivés?
Bah, moi, le smiley barré qui disparaît là. Et le gars qui fait ciao là. Genre Wiederzen là, j'aime bien.
Et s'il se gratte pas la tête?
Et dans les anciens.
Ah non, moi j'ai l'impression qu'il fait ça genre. Et c'est disparition ninja.
Oui, c'est un peu oui chef quoi, je crois.
Ouais, ok,
c'est un militaire.
J'aime bien celui-là. Et puis après, bien le haricot rouge, bien sûr.
Ah, j'aime bien celui qui pleure de rire là.
Attends, ah oui, il est mignon et en même temps il chiale.
Et à la fois, tu sens que c'est un peu une vicose quand même.
Et il y a le cœur coréen là.
Vous voyez la main. Le cœur de la K-pop, ça c'est incroyable.
Celui-là, il y a moyen d'être utilisé un peu.
Et il y a un espèce de troll aussi tout à gauche là, c'est quoi? Un espèce de gobelin?
Ouais. Ça, là pour le coup.
On dirait un mec avec un scaphandre là, je vois pas là.
C'est un troll, ouais, c'est bien un troll.
C'est un troll?
Ok. Quel est ton jeu, Charlotte?
Alors.
Ah oui, c'est de la culture générale d'emoji en fait, c'est ça?
Ouais.
Est-ce qu'on est fort en emoji?
On va très loin dans 300 minutes.
Ah oui, c'est simple. On a la meilleure équipe, tout simplement. Les meilleures thématiques.
Est-ce qu'il y a des chips?
Non.
Il y a pas une tortilla?
Oh!
Ah, est-ce que ça rentre dans la notion de chips? Là, ça va. Je vais encore lancer un débat sur le chat.
Il y a la patate, c'est sûr.
Ouais, il y a une
bonne pomme de terre.
Il n'y a pas de chips.
Mais t'as raison, il y a une tortilla, genre, il n'y a pas de chips.
Il n'y a pas de chips, ok.
Est-ce qu'il y a un revolver?
Oui.
Alors. Vas-y.
Il y a eu un revolver qui a été changé en pistolet à eau suite à la réclamation d'associations américaines contre les armes à feu, je crois.
Exactement.
Et je crois que ta culture, Jean, là, tu nous énerves.
Et c'est même un
ça, gros
débat.
Pas, tu
gros,
vois.
Gros débat aux États-Unis parce qu'à l'inverse, évidemment, des associations pro-armes ont fait des manifs pour réclamer le retour. Non, je te jure, pour réclamer le retour de l'émoji arme à feu parce que c'est ça l'Amérique et tout.
J'adorerais aller dans ce genre de manif et faire ça va vous sinon. Non, d'accord, ce mardi, vous n'avez pas grand-chose quand même, tu vois.
Et en fait, ce truc-là, ça vient de France parce que c'est un Français qui a envoyé, ce truc-là, il est venu de France. Un Français a envoyé à son ex un revolver, du coup, en émoji.
Donc menace.
Et donc, ça a été considéré comme menace de mort. Et ça vient de là, toute la polémique qui a suivi.
Tu me dirais, il aurait envoyé un pistolet à eau, le message était aussi clair, tu vois, il y a un moment, c'est...
Je suis pas sûr. Il y a un truc, il peut avoir des petits jeux.
Mais pourtant, il y a toujours un couteau.
Oui, ça, il y a la hache, le couteau, les épées.
Ouais, donc, en soi, oui, c'est vrai.
Oui, tu envoies une épée. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus médiéval, tu vois. Ouais. C'est genre, c'est une menace de mort ou c'est une partie de...
C'est vrai.
Alors, un cyborg.
Oui. Ah, je sais qu'il y a le bras, c'est vrai que j'adore, là. Tu sais, il y a le bras fortiche.
Ouais.
Et il existe le même robot, en fait. Un bras.
Ah, ça, je savais pas.
On appelle ça quand t'as pas de bras et quand on met une prothèse, exactement.
Alors, effectivement, il y a des bouts de cyborg, des bouts de robot, mais pas un cyborg entier.
Il y a pas une tête de robot.
L'emoji robot,
je l'utilise
tous les jours.
Il y a la tête. Voilà,
tous les jours.
C'est des
et qu'est-ce qu'il veut dire pour toi ? Parce qu'il y a une raison.
Non, mais moi, c'est parce que je bosse sur un projet autour de Roger et ses humains, ma bande dessinée. Et du coup, je signe tous mes mails, tous mes messages avec la tête du robot. Parce que c'est
d'accord, ça a du sens.
Mais non, sinon, juste, ça voudrait dire. Ah, je sais pas du tout. J'avoue, si j'envoie juste la smiley robot, les gens font. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là.
Je crois que
toi, tu l'utilises, ça ?
Non, je l'utilise pas sur ça. Mais j'aime bien savoir ce que les gens ont comme signification. Parce qu'en fait, un emoji, j'ai remarqué qu'en fonction des gens à qui je l'envoyais, voulait pas du tout dire la même chose.
Effectivement.
Et des fois, tu te retrouves avec des quiproquos, mais des trucs genre. Putain, pourquoi t'as envoyé ça ?
Par exemple, il y a un gros débat sur l'émoji ballon en rouge.
Ah, c'est quoi le débat ? C'est quoi la
double ? Non, on est sur tous les débats.
Bah, pour certains, ça veut dire je te kiffe. Pour d'autres, c'est juste un ballon rouge. Mais
pour tout le monde, c'est juste un ballon rouge.
Elle m'a envoyé ça hier soir.
Non, j'ai déjà eu ce débat avec plusieurs personnes différentes qui pensent que c'est genre je t'aime bien.
Pour le coup, l'aubergine, c'est assez clair. Ça, je crois que
oui, ça va. Ça, c'est universel, mais
encore que ta maman peut te l'envoyer en croyant que c'est un légume. Tu vois,
t'as dit une ratatouille à midi.
Mange des légumes.
Tu connais les mamans qui croient que lol ça veut dire lot of love et qui signent tous leurs textos par lol.
Ah ouais,
et du coup les enfants qui doivent expliquer non, arrête maman c'est pas, ça, pas dire ça. Enfin c'est pas comme ça que je le comprends en tout cas donc arrête.
Alors livreur
ouais oui il y a un petit scooter avec une caisse derrière je crois
non, j'y crois pas, c'est trop
un fax
alors moi aussi je vais étaler un peu ma culture t'es pas tout seul autour de la table. Les émojis ça vient du Japon, ok, ouais. C'est les Japonais qui ont créé ça à la base. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de trucs asiatiques. Et du coup, je sais qu'ils utilisent, attention, je développe un peu. Ils utilisent encore beaucoup le fax, les Japonais. Pour l'administratif, je vous jure. Moi, j'ai des amis qui ont créé leur boîte là-bas et qu'on leur dit, oui, très bien, envoyez un fax et tout ça. Ils ont fait, waouh, waouh, waouh. 2022, un fax. Ils font, oui, bien sûr, tu vois. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que par amour pour ce vieux système, c'est leur Minitel à eux, un peu le fax, tu vois.
Respect.
Et ils aient un emoji fax. Mais peut-être que tu vas dire que non.
Eh bien, Cyprien, ta déduction est géniale parce que oui, il y a un emoji fax.
Culture Jap.
That's me.
Et c'était très intéressant.
Tu l'as dit d'une manière où c'était pas intéressant.
C'était
très intéressant. News suivante.
De fou, en plus, j'adore ce genre d'explication. Tu dis où quand t'envoies un fax en emoji, t'es en mode genre ah, je vais pouvoir raconter cette histoire. Non, trop bien.
Non, ne racontez pas.
Est-ce qu'on a d'autres news? Oui, peut-être.
Oui, c'était la fin du jeu.
Ouais, c'était la fin du jeu.
Je suis triste parce qu'il n'y a pas est-ce qu'il y a l'emoji Tour Eiffel?
Est-ce qu'il y a l'emoji Tour Eiffel?
Est-ce qu'il y a l'emoji Tour Eiffel?
Oui.
Il y a l'emoji Tour Eiffel?
Je crois. Sûr. Putain, t'es en train de me mettre le doute là.
Je crois. Ah bah, il y a le Taj Mahal.
Ouais.
Donc.
Ce n'est pas la Tour Eiffel?
Non, mais du coup, il doit y avoir la Tour Eiffel.
Eh bien, non. Voilà. C'est bon, j'ai étalé toute ma culture pour aujourd'hui. Okay,
après, et ben manif lundi prochain.
Non mais à chaque fois, chaque année, je regarde un peu les nouvelles sorties, tu vois, de ces fameux petits emojis. Donc j'ai vu les bulles, le troll, le truc. Et je me dis, mais putain, cette putain de Tour Eiffel, quand même, un jour, tu vois.
Bah, quand même.
Et elle y est pas, non. Mais il y a la Tokyo Tower qui ressemble, mais elle est rouge et blanche, donc rien à voir.
Non, mais c'est un bizarre. Scandale.
Je pense que les Japonais s'en branlent un peu de ce.
Ou alors, ils ont été dégoûtés par la France.
Les Japonais, la France,
non.
Ils se sont dit, il y a déjà la nôtre, là.
Ouais, c'est ça.
Elle est blanche et noire.
Mais il faut faire une enquête parce que c'est vraiment très bizarre. C'est quand même censé être une des villes.
Ou alors, on fait pas d'enquête aussi, on peut.
Je vais faire une petite enquête quand même et je vous dirai la semaine prochaine.
Les gens sont épatés hein, quand même que les... Ah oui, est-ce qu'il y a le drapeau breton?
Ah, il n'a pas été rajouté récemment?
Il n'y a pas le drapeau corse, donc je ne suis pas sûre.
Drapeau breton, je pense qu'il y a moyen qu'il y soit.
Tu penses?
Il y a une telle diaspora, ouais.
Pareil, enquête pour la semaine prochaine.
Voilà. Je ne sais pas.
Ah, tu sais,
je ne sais pas. J'ai vu dans le chat, les gens disent drapeau breton. Je fais, bah, je ne sais pas s'il y est ou pas. Il y a d'autres choses sur Internet tout aussi passionnantes.
Est-ce que vous voulez qu'on parle de la vidéo de Magali Berda ou on
Ah, on rentre comme ça dans
chose.
Le vif du sujet, là.
Est-ce qu'on, wow. est-ce...
Donc, il y a l'agente des stars de télé-réalité.
C'est que tu poses la question, mais tu sais très bien qu'on va en parler.
Ouais, en fait, c'est ça.
Est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce qu'on en parle plus tard?
Non, mais on peut en parler. La vérité, c'est qu'on s'est un peu concerté et moi, j'ai dit, j'avoue, la politique, au bout d'un moment, ça me saoule un peu, tu vois. Mais il s'est passé un truc très intéressant parce qu'une agente de star de télé-réalité qui s'appelle Magali Berda, c'est ça, qui représente plein de gens qui sortent de télé-réalité et qui fait, j'imagine, des placements de produits, qui fait les liens, c'est le principe des agents.
Elle en fait elle-même aussi.
Et elle a créé une émission qui est diffusée, je ne sais pas où, en fait,
sur sa chaîne YouTube.
Qu'elle a créée il y a deux semaines.
Qui s'appelle 24 heures avec ou quelque chose comme ça.
Ouais. Enfin.
Un truc comme ça, en immersion.
Suffisamment flou pour que soit toléré dans notre vie, en tout cas. Et elle a fait, du coup, une émission avec. Sa première émission, j'imagine, avec Éric Zemmour.
Premier épisode, ouais.
Nous, ce qu'on s'est surtout dit, c'est que tu as fait aussi ce concept-là, 24 heures avec, une journée avec.
Ouais, c'est une espèce d'émission que j'ai sur ma chaîne. Mais alors, c'est soit avec un influenceur, soit un YouTuber. Et effectivement, je l'avais
politique,
fait.
Politique, ça t'est.
Mais je l'ai fait en pensant, en fait, que ça pouvait être intéressant. Je l'avais fait avec Brune Poirson, à ce moment-là, qui était ministre, enfin, secrétaire d'État à la transition écologique. Mmh. Hyper intéressant. Suivre, en fait, quelqu'un comme ça dans son quotidien, c'est passionnant. Mais enfin, pour autant, il n'y avait pas vraiment cette vision derrière de politiser mon audience. Tu vois, c'était juste de pouvoir montrer ce que c'était le quotidien. Et je crois que Hugo Décrypte l'avait déjà fait aussi pendant les précédentes présidentielles. Mmh. Donc, en soi, je trouve que le concept est assez intéressant. Ça permet aussi aux gens de voir ce qui se passe à l'Élysée, un petit peu plus haut. Mais bon, là, j'avoue que j'ai
pas de candidat. Tu ne ferais pas 24 heures
non,
avec un candidat
pas. Non, faire ça, ouais, je ne pourrais pas. Non,
un
je
ministre,
pourrais pas.
C'est différent.
Un
c'est quelqu'un
c'est
qui a
différent.
Le pouvoir.
Et puis
quelqu'un
là,
qui le cherche. Tu vois,
oui.
C'est...
Et puis, en l'occurrence, c'était pour la transition écologique. Donc, tu vois, c'était encore un autre sujet qui, je pense... Enfin, parce que pour moi, l'écologie n'a pas de parti. Tu vois, on vit tous sur la même planète. Il y a un moment, il faut... Voilà. Mais effectivement, là, moi, je ne me verrais pas du tout le faire. Je me verrais pas du tout le faire avec...
Parce que Éric Zemmour attend que tu l'invites.
Ah, mais non, mais enfin, c'est...
Mais tu sais qu'il viendrait, hein.
Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr que oui.
Ouais.
Bah, oui.
Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils expliquent dans la vidéo. C'est ce truc de...
Tu l'as regardé, toi, les 24 heures avec...
Je l'ai regardé. Ça fait 30 minutes, j'ai rien loupé. D'ailleurs, c'est très marrant parce que ça s'ouvre sur un placement de produit.
Non,
tu rigoles ou pas? La vidéo commence
sur le placement de produit, genre sur un salon de manucure, genre proche Paris, avec j'ai pas envie de mal en parler, mais en même temps, c'est tellement drôle. Avec des vidéos vraiment moches, une musique vraiment horrible, ça cut d'un coup, et t'as Magali Berda comme ça. Bonjour, c'est le premier épisode de cette, tu vois.
Ouais.
Et genre ouais. Et donc ce qui est incroyable, c'est que dans la vidéo, en fait, elle parle des réseaux sociaux, du coup, avec Zemmour et avec son équipe. Et ils expliquent à quel point c'est super important pour eux que ça fait partie intégrante de la stratégie.
Ce qui est
électorale
vrai,
et que
pour chaque candidat, hein, tout pas spécifique.
Spécialement pour cette élection. Et c'est hallucinant, quoi. Ils expliquent qu'ils mettent des heures à chercher genre le bon titre, à faire la bonne vidéo, que chacun a son poste, qu'il y a quelqu'un pour monter, quelqu'un pour faire ça, quelqu'un pour faire ça. Et donc elle s'est proposée ministre des réseaux sociaux.
Ouais, sous le ton de la blague, elle dit ah vous me non mais je pourrais être ministre et pourquoi pas on verra.
Yes.
Elle a quand même répété 3 fois dans l'émission.
Oui, elle force comme on dit dans le milieu. Oui, donc pas de candidat pour 24 heures avec. Est-ce qu'il y a d'autres une journée avec que t'aimerais faire à l'avenir là?
Bah écoute, j'en fais pas mal avec des youtubeurs, des influenceurs. D'ailleurs, si tu veux, je peux passer 24 heures avec toi si tu m'acceptes.
Est-ce que je peux être le ministre de tes réseaux sociaux?
Je trouve ça intéressant en fait. Mais après, il y a pas mal de personnes qui ont ce concept là en fait, de montrer l'envers du décor de certains métiers. Moi, je trouve ça passionnant parce que c'est parfois des métiers dont on n'a jamais parlé, donc c'est cool. Pour l'instant, j'en ai quelques-uns qui sont en train d'être préparés.
Vous connaissez Ludovic B? vous dit quelque chose?
Oui.
C'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube,
un
ancien journaliste d'ailleurs, et qui a juste aussi un concept comme ça sur une journée avec, et c'est sur des métiers, ça va être, je sais pas moi, un éboueur ou un pilote de... Ça te plairait, hein?
Aux avions, 24 heures avec.
Et voilà, c'est une super chaîne, Ludovic B.
Thibaut InShape qui l'a fait avec un croque-mort.
Alors, effectivement, ce 24 heures avec va peut-être trop loin.
Voilà. Non, mais ça m'a dit.
Ça me revient. Tu l'as dit d'un ton, genre comme si l'image te revenait.
Attendez, mais Thibaut InShape l'a fait avec un
Ça m'est revenu, en fait. Donc, ouais.
Et toi, ça t'avait appris quoi, Marie, sur la politique de passer cette journée avec elle?
Ouais, toi quand t'as fait ça, t'as appris des choses quand même ou c'était comme t'imaginais?
Franchement, c'était... Je sais pas, en fait. Au final, je l'ai fait un peu par curiosité. Parce que j'ai eu l'occasion de le faire. Donc j'ai trouvé ça cool sur le coup. Et puis après, bien sûr, tu sais, dès que t'es youtubeur ou influenceur et que tu commences à te politiser, mais pas vraiment, en fait, juste à parler un petit peu de politique, à donner un petit peu de visibilité à ça, tout de suite, en fait, on te dit: ah non, mais attends, t'as été acheté par l'État, on t'a demandé, en fait, de faire ça, tu te rends pas compte que t'es un instrument. Et en fait, tu sais, j'étais un peu genre, mais attendez. Et à un moment, on peut aussi faire les choses juste par envie et par envie de découverte et puis par envie de partage, et pas forcément parce que on a été... Enfin, moi, j'ai jamais été payée par le gouvernement. Enfin, j'aurais adoré limiter, j'ai envie de te dire, mais pas du tout, en fait. Donc oui, c'était plus pour mon plaisir à moi de découvrir et de faire découvrir, en fait, le quotidien d'une ministre, en fait, à des gens qui n'avaient jamais vu ça, quoi.
Et moi, je me souviens des réactions hyper négatives à l'époque de gens qui, en fait, niaient complètement ton autonomie en disant, mais c'est pas elle qui a décidé, elle est manipulée. Pourquoi elle le serait?
Dès que tu t'approches de la politique, ça s'échauffe énormément.
Et le problème, et moi, tu vois, j'ai toujours défendu l'idée que la politique, ça doit appartenir à tout le monde et surtout pas aux gens comme moi. Tu vois, c'est pas parce que moi, je fais une chaîne de politique que je dois être le seul à avoir le droit de parler à des politiques et de parler de politique. Au contraire. D'ailleurs, si je le fais, c'est justement pour que tout le monde en parle et que ce soit OK, etc. Et donc, du coup, quand tu as ce genre de réaction, quand des gens comme toi essayent de le faire, je me dis, bah, en fait, non. Au contraire, dites-vous, c'est trop cool. Ce qu'elle est en train de faire, Marie, elle tente le truc, elle essaye de s'intéresser. Ouais. Au contraire, dites-vous, c'est trop bien. Et ouais, c'est un peu badant parce que la politique, du coup, ça devient cette espèce de truc radioactif. Ouais. Du coup, tous mes potes influenceurs, streamers, etc., bah, en fait, ils n'ont pas envie d'en parler. De
mais
peur de générer,
peur, en fait,
ce, genre... Mais ouais, de générer ce genre de réaction débile. Moi, je galère, du coup, parfois à inviter des potes influenceurs sur mon émission parce que j'essaie de les faire parler de leur rapport à la politique. Ouais. Et du coup, il y en a plein qui me disent, non, genre.
Bah justement, c'est une question de. Donc, nous avons une page Patreon avec des gens qui nous soutiennent de l'émission et ils nous posent parfois des questions aux invités. Et justement, il y a un des patronus, on ne sait pas comment appeler les gens qui nous soutiennent,
contributeurs. S'ils aiment bien ce
il faudra qu'ils vous nous disent. Hein. Désolé, les patronus, si vous n'aimez pas ce mot, on va changer, vous inquiétez pas. Et il y a Yomgi qui nous demande justement, beaucoup de streamers et de vidéastes affichent une forme de neutralité. Est-ce que c'est une posture qui est vraiment tenable sur le long terme? Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite parfois? C'est une volonté. Après, je vais répondre aussi parce que j'en fais un
c'est
petit
ton
peu
cas.
Toi, c'est important d'afficher une certaine neutralité ou à un moment tu peux dire bah, la politique, c'est aussi un truc qu'on peut évoquer ou...
En fait, honnêtement, j'adorerais pouvoir en parler plus, mais je l'ai vu, j'ai fait un live Twitch avec Gabriel Attal il y a 6 mois. Je me suis jamais fait autant de trash talk qu'en faisant ce genre de choses. Ouais.
Toi, tu regrettes énormément ça?
Mais je regrette parce qu'en fait, c'est pas que je regrette parce que je suis fière de l'avoir fait. Déjà, je suis très honorée qu'on m'ait proposé de le faire. Enfin, tu vois, c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est quand même une expérience assez incroyable. Mais je regrette en fait la tournure que ça a pris, les commentaires que ça a engendré. En fait, cette espèce de médisance de la part des gens qui étaient là, mais elle y connaît que dalle. Mais en fait, t'as pas besoin de t'y connaître et d'être journaliste politique pour venir parler de ça, poser des questions, pour défendre des idées. Enfin, la politique, ça appartient à tout le monde et pas à 10% de la population qui s'y connaît à fond. Enfin,
en même temps, ouais, après, t'as aussi un enjeu des politiques qui vont préférer faire des vidéos comme ça parce qu'ils vont pas être trop relancés par des gens qui, de fait, s'y connaissent moins et connaissent moins les dossiers qu'eux. Donc, effectivement, tu vas moins pouvoir. Alors, moi, c'est mon métier, donc je vais faire des relances. Moi, je vais être plus pour la gratter. Et du coup, je sais très bien que les politiques préféreront faire ce genre d'opération que de venir dans mes émissions. C'est normal, ça fait partie de l'écosystème.
Tu le vois comment, justement, c'est parfois des influenceurs, des trucs comme ça qui sont ralliés à un petit. Un coup de com ou une prise de parole.
Ça dépend comment c'est fait et pourquoi c'est fait. Tu vois, on avait beaucoup parlé de McFly et Carlito. Oui, voilà. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est pourquoi est-ce que les gens le font? Est-ce que ça a du sens qu'ils le font et quel est le sens qu'il y a derrière? Moi, je postule pas le côté manipulé des gens par principe. En fait, je dis, on va regarder d'abord, puis on va voir comment ils en parlent eux-mêmes. Et justement, toi, sur l'AF de Gabriel Attal, t'avais posé des vachement bonnes questions. T'avais dit sur le plateau que, attendez, moi, je suis pas journaliste.
Mais
d'ailleurs, ce serait bien la prochaine qu'il y ait des journalistes.
Mais
tu lui as dit toi-même. J'étais en mode, en fait, elle a trop raison. Genre, tranquille, elle prend sa responsabilité. liberté de. Et donc, enfin, tu vois, c'est moi, je veux pas empêcher les gens de parler de politique, au contraire. Mmh. Et la neutralité qui est affichée par beaucoup d'influenceurs, elle est pas toujours hypocrite, parce qu'il y en a plein qui ont un rapport très très négatif avec la politique. Genre vraiment, c'est pas mon truc, ça me saoule. Ça saoule toute notre génération. 85% d'abstention aux élections régionales, c'est ça saoule les gens. C'est faut l'accepter, ça. Donc c'est pas grave de pas parler de politique. Après, ça dépend de ce que tu fais sur internet. Quand tu fais du jeu vidéo toute la journée, bah, c'est pas grave de pas parler politique.
Oui, c'est ça.
Après, quand tu vas commencer à t'intéresser un peu plus à des sujets de société et tout, bah, c'est bien aussi de montrer à travers ce que tu fais, bah, que tu es sensible, par exemple, à des causes. Mais c'est pas plus politique que ça, juste l'environnement, j'y tiens. Là, je viens de dire un truc qui est en fait un peu politique, mais pas très grave. Enfin, c'est pas une prise de position politique. Je suis pas en train de dire je vais voter Jadot. Bah, tu peux faire ça sur plein de trucs. La cause animale, pardon, la cause de l'égalité femmes-hommes, la cause de l'inclusion, le handicap. Enfin, tous ces sujets-là sont politiques. Ta dernière vidéo, elle parle de l'image des femmes dans les dessins animés.
Ouais.
Bah, c'est de la politique,
oui, en soi, oui.
Sans être partisan non plus. Enfin, ça défend un point de vue de dire que ce serait bien que les femmes soient mieux représentées dans les dessins animés. Mais tu vois, t'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc voilà.
C'est oui, je suis assez d'accord avec.
Parce que toi, tu le vis comment, toi, du coup?
Non, moi, en fait, c'est pas un sujet qui, dans tous les cas, me passionne énormément, parce que c'est très clivant, tu vois. Dès que tu dis j'aime bien ça, les gens vont dire ah, c'est parce que tu détestes l'opposé. Tu fais, mais arrêtez, tu vois, d'être là-dedans. Et comme sur Internet, en plus de ça, on déteste la nuance, et en approche des élections, on déteste encore plus la nuance, et que quand tu aimes un candidat, c'est que tu détestes tous les autres au plus haut point, ou alors tu détestes tellement les autres qu'il y en a un que tu détestes moins, bref. Et moi, je trouve que c'est pas très sain mentalement, parfois. Donc, c'est pour ça que moi, je suis pas très fan de tout ça. C'est pas que je veux éviter les conflits ou quoi que ce soit, mais j'ai mes convictions, et je préfère transmettre des sentiments, des émotions, des blagues, des trucs que je peux maîtriser, et ensuite des avis sur les trucs. Il y a des gens qui, tu sais, c'est con, mais parfois tu donnes un avis sur quelque chose où tu dis ouais, il faudrait faire ci et ça, et les répercussions que ça peut avoir, j'ai n'importe quoi, tu donnes une aide pour quelque chose, c'est peut-être l'argent qu'il y a de moins dans quelque chose en fait, et du coup tout le monde dit ouais, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et je me dis mais qui a vraiment la map avec tout ce que ça engendre et tout ça, bref. Et du coup, je me sens pas du tout capable de pouvoir affirmer genre ça c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, Cyprien Ayov, 32 ans, je sais qu'il faut faire ça absolument. Pour moi, c'est impensable, tu vois, de pouvoir affirmer quelque chose.
Je reviens que c'est pas parce que tu ne sais pas tout sur un sujet que tu peux pas avoir une opinion pour ce qu'elle est, tu vois, un peu brute parfois.
Bah. J'ai mes opinions, mais je déteste l'imposer aux autres, tu vois.
Ouais,
et si je dis, par contre, faut vraiment faire ça, c'est que je carie le sujet et que là, il y a pas de souci. Et en l'occurrence, c'est sujet politique, j'en carie aucun.
Et toi, par exemple, Jean, t'es pas du tout neutre, enfin tu. Dans tes lives, dans ce que tu produis.
Attention, la journaliste qui attaque le streamer, qu'est-ce qui se passe? Attention, calmez-vous. T'es pas neutre.
Non, je revendique pas la neutralité ni l'objectivité parce que ça existe pas. Par contre, je revendique la sincérité et la transparence et l'honnêteté. Les gens savent d'où je viens parce que j'ai bossé en politique par le passé, donc j'ai eu un parcours militant à un niveau.
Tu peux nous raconter, est-ce que tu peux nous raconter juste un petit peu ton parcours? Parce que j'ai appris que tu écrivais notamment des
discours pour des ministres.
Ouais.
En fait, moi, j'étais étudiant en droit, j'étais passionné d'associatif, j'étais très impliqué dans l'associatif. D'ailleurs, je n'étais pas très politique. Je faisais des assos, on montait des festivals, des trucs trop cool pour les jeunes et tout. Et plus tard, j'ai eu envie de devenir ce qu'on appelle collaborateur de cabinet. Donc, c'est les gens qui sont assistants parlementaires, qui travaillent dans l'ombre, en fait, ceux qui sont jamais devant les caméras.
Ça, tu voulais faire ça.
Et moi, c'était le métier que je voulais faire parce que j'en avais rencontré, que ça avait l'air trop cool leur métier. Et je m'étais dit, let's go. Donc, j'ai fait des études pour ça et je suis devenu collaborateur. Et pendant plusieurs années, j'ai bossé à la mairie de Paris, dans les équipes de la Noé, d'Hidalgo, j'ai bossé en Seine-Saint-Denis. Et je me suis retrouvé, au bout d'un moment, à bosser pour la ministre de la Santé à l'époque, qui s'appelait Marisol Touraine. Et j'étais ce qu'on appelle sa plume. C'est-à-dire que mon métier, c'était d'écrire toutes ses interventions. Donc tout discours, dès qu'elle prend la parole, etc., c'était moi derrière qui préparais en amont avec les équipes le discours, ce qu'elle allait dire. Et donc ça a été mon métier. Et j'ai décidé de tout plaquer en 2015 pour me lancer sur Twitch. Pour des raisons perso, j'ai eu envie d'arrêter et de changer. Et surtout, du coup, de raconter tout ça, de raconter la politique. Parce que du coup, moi, j'avais vu et appris plein de trucs en étant dans la machine. Je me disais, mais en fait, c'est ça que j'ai envie d'expliquer aux gens, comment ça marche vraiment, comment c'est justement plus complexe que ce que beaucoup de gens pensent. Que non, les gens ne sont pas en train de faire des complots tous les 4 matins en essayant de faire de la stratégie politique cynique. Non, il y a aussi des gens qui défendent des idées et tout. Bon.
Donc là, tu reçois un petit mail. Cher Jean Massier, moi, ministre de ce que tu veux, j'ai besoin d'un petit discours. Tu pourrais m'aider?
Il faudrait que je me replonge dans des dossiers. Ouais, ministre des réseaux sociaux. Ouais. Il faudrait que je me replonge dans des dossiers. Mais oui, c'est un métier.
Tu pourrais refaire 300. Pour continuer?
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je crois que j'ai un peu perdu la plume, justement.
Oh, il a perdu la plume, c'est bien dit.
Mais je pense que ça peut grave intéresser les gens, la façon dont, justement, tu faisais le mélange entre peut-être de l'émotion, que ce soit compréhensible pour tout le monde, accessible pour tout le monde. que ça paraisse ni trop hautain et,
ouais, c'est
et
très
en dehors. Enfin, de, ça doit être vraiment.
Puis en fonction
un
du
jeu
contexte, en fonction
quoi.
Du sujet. Alors, t'écris des discours très touchants et très difficiles. Sur, je me souviens, on avait fait l'anniversaire de la loi Veil. On avait fait un discours devant l'association des hémophiles sur l'anniversaire du sang contaminé. Donc, c'est dur. Les gens ont perdu leur gosse quand même. Hein, ouais, tu vois, donc. Voilà, ces discours-là sont pas faciles à écrire. Et puis d'autres, on a fait un cancer sur l'inauguration d'un nouveau scanner pour le cancer colorectal.
Okay.
Et là, tu te dis, putain, ça va être dur de pas faire de blagues. Non, mais vraiment, c'est dur de pas faire de blagues. On a fait des discours un peu à la con parce que la vie d'un ministre, parfois, c'est d'inaugurer un truc un peu chez père et tout. Bon, bah là, tu dois écrire un discours. Et puis après, des remises de Légion d'honneur, des discours à l'Assemblée, des discours devant des ambassadeurs. Enfin, j'ai un peu tout fait, quoi.
Mais c'est hyper intéressant, en fait.
Et c'était un métier dingue. C'était un métier de dingue aussi, par ailleurs. Non, j'étais rincé. Mais j'écris 300 discours, je crois, en un an, 300 interventions.
Putain, quand je fais un tweet sans faire de faute, j'ai l'impression d'être c'est le king de l'année.
J'en faisais des fautes. Hein,
c'était très intéressant. Il faut savoir qu'on est tout. Alors là, je passe du coq à l'âne.
Vas-y.
Incroyable. Puisqu'on est toujours dans les actus, hein, vous savez pas. Non, mais je déroule un petit peu le truc et je voulais juste. On évoque un petit truc, c'est un petit bonbon que je m'offre, ok, un petit plaisir. Mais c'était l'anniversaire des 20 ans de Astérix Mission Cléopâtre.
Oui,
ma comédie française préférée. Et voilà, moi, c'est un film que j'adore vraiment. Et là, il s'avère que pour les 20 ans, ils ont sorti. Déjà, 20 ans, je fais
waouh,
personne âgée. Et ils ont sorti plein d'interviews, des trucs de l'époque et tout, que j'ai adoré. J'ai tout re-bingé tout récemment. Là. Et je voulais savoir un petit peu si ce film ça vous a plu, si vous étiez là à la sortie, vous vouliez voir ce film.
Moi, je ne me suis pas précipitée en salle. Déjà, il y a 20 ans, j'avais 6 ans.
C'est pas une excuse, là. T'es en train de te dérober.
Écoute,
de ça. De...
Si, mais non, en fait, j'ai grandi avec.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aussi, je l'ai regardé très tôt, en fait, avec mes parents qui avaient
adoré. Tu devais rien biter,
mais au
non
début, j'ai rien compris parce que j'avais pas les refs. Et puis après, en grandissant, je l'ai regardé, re-regardé. Et puis, bien sûr, comme tout le monde, j'ai capté les punchlines, je les ai retenus. Et aujourd'hui, je les ressors et c'est un plaisir. Enfin, genre, je me marre tout le temps, toujours autant en regardant ce film-là, quoi. Et je trouve, en fait, que... Il a pas si mal vieilli.
Ah non, mais moi,
je le
kiffe, mais à 1000%.
Et c'est
genre...
toujours trop plaisant de le revoir parce que les vannes n'ont pas vieilli, quoi. C'est toujours aussi drôle.
Un peu Zarbi avec Dieudo, tu fais
aussi ce que ça m'a fait penser, c'est que c'est une époque.
Ah oui,
c'est une époque, c'est deux bouses.
Mais c'est le climax de chaque personne de la
scène.
Des Robin des Bois, c'est climax.
T'étais pas encore chelou à l'époque. C'est vrai, tu regardes aujourd'hui, tu fais, c'est vrai qu'à l'époque de Bardieu, ça passait mieux.
C'est venu plus tard.
Ah, dans le chat, tout le monde sort les. Il loue le manio, mais c'est.
Ils sont dingues. Et en fait, c'est resté, et ça, c'est culturel, tu vois. C'est pour toute notre génération, c'est des blagues qu'on fera toute notre vie. À part le passé, il y avait les Bronzés Fonds du Ski, les films des nuls aussi.
Toi, tu as vu au cinéma?
Non, moi je crois que je l'ai vu en DVD. Alors pour les plus jeunes qui nous regardent, dans le DVD, c'était un disque qu'on achetait à la Fnac et qu'on devait mettre dans un lecteur. Voilà, c'était un truc.
Moi, j'avais acheté le collector vraiment avec mes deniers et j'étais trop content parce que dedans il y avait les bonus et tout, tu vois. Et il y avait des petites boucles animées de. Parce qu'en fait, t'avais une sorte de papyrus quand tu lançais le DVD. Et en fait, il y avait des petites animations dans les hiéroglyphes. Ça durait très longtemps. Et je regardais, genre, pendant 20 minutes, le menu DVD. Alors ma mère s'est dit, c'est bon, il fait un AVC. Et en fait, non, je regardais les trucs bouger et tout, j'en pouvais plus. Et
mais toi, c'est sûr que tu connais les répliques par cœur.
Mais en fait, au-delà des répliques, moi, c'est même la démarche, c'est-à-dire de se dire, on va faire une comédie avec 50 millions d'euros, tu vois. C'est genre, on va se donner les moyens. Et aller jusqu'au bout avec une licence qui est culte et tout. Donc, au-delà des répliques, parce que parfois, quand on me ressortait le ça va, Imhotep et tout, tu vois, il y avait ce côté un peu Kaamelott, peu chiant, tu vois, du gars un peu collant de ah, c'est pas faux, la vie, c'est le gras, je sais pas quoi. Et du coup, je voulais pas rentrer là-dedans, donc j'aime bien les répliques, mais tu sais, je suis pas du genre à les ressortir toutes les 4 secondes. Par contre, tout ce qui est l'aura de ce que c'est et comment ça a été fait, etc., je trouve ça juste vraiment fascinant, quoi. Ouais. Donc voilà, moi, c'est un film qui a été hyper important pour moi parce que il est trop marrant, il est trop drôle. Et rien que ce DVD là dont tu parles, tu sais qu'il y a un director's cut. par exemple. En fait, il y a plein de vannes de merde. Il y a un director's cut où c'est que les plans de Chabat. Il n'y a plus de film, ah tu vois. Il a gardé que ses plans.
Incroyable.
Et il n'y a que les plans de Chabat. Du coup, tu vois, c'est des petites blagues, ça ne sert à rien.
Il y a quand même une réflexion que je me suis faite, c'est que ce film est intraduisible dans une autre langue.
Ah non.
Il y a un nombre de blagues qui sont purement française.
Mais je crois qu'il a quand même pas mal marché à l'étranger. Il faut savoir que par exemple, Astérix Mission Cléopâtre, il y a le DVD qui est sorti en France. Si tu veux trouver le Blu-ray est allemand.
Quoi ?
Énorme.
Va savoir pourquoi. Okay. Le Blu-ray de ce film est uniquement dessus, allemand. Mais oui, ouais, bien sûr, parce qu'il y a toujours les langues et tout. Mais bref, je crois qu'il a pas si mal marché. Mais cette information est bien sûr pas du tout vérifiée, plutôt floue. Et voilà. Toi, Charlotte, t'avais vu aller à la sortie ?
Ouais, non, pas à la sortie, parce que pareil, du coup, moi, j'avais 8 ans.
Mais c'est des excuses. Je suis désolé, mais écoute, là, vous évitez.
Ouais, mais tu vois.
J'étais jeune aussi, mais moi, je me le suis pris dans
j'avais
la gueule.
J'avais 13 ans, ouais.
Ah ouais, je me suis pris dans la gueule et j'ai.
Non, mais après, oui, bien sûr, je l'ai regardé à fond. Mais j'ai très très envie de le regarder, surtout que effectivement on a vu passer là pas mal d'extraits avec les 20 ans et ça donne trop envie quoi.
Il y a une comédie number one pour vous?
C'est dur ça comme question. Ouais. Putain.
Ah bah non, moi j'y réponds très facilement. Je dis c'est ce film-là.
La Cité de la peur des nuls.
La Cité de la peur,
qui est pour le coup un peu génération d'avant moi, mais que j'ai appris à découvrir. Et le cinéma absurde, c'est un truc qu'on a peu vu depuis. Ouais. Et pour moi c'est un chef-d'œuvre. Ouais.
Moi, tous les films avec Agathe Léry.
D'accord, okay. Toute la filmographie d'Agathe Léry, c'est la crème.
Enfin, je dis Agathe Léry en plus parce que c'est un film, mais Valérie Le Mercier. Vous voyez ?
Oui, oui.
Oui, ouais. Donc tout Valérie Le Mercier, je
Okay. Dans le chat, on dit le dîner de cons, les visiteurs, oui, c'est de la peur, les trois frères.
Non mais c'est vrai, le dîner de con en fait.
C'est vrai que mais c'est incroyable cette histoire de
Tu sais qu'il a flopé en salle.
Ah mais bien sûr, je me rappelle très bien.
Tu sais pourquoi la Chabat, il l'a appelé il l'a dit dans une interview. En fait, ça le faisait marrer, l'idée que les gens arrivent au cinéma et demandent bonjour, je voudrais deux places pour... Et là qu'ils n'arrivent pas à dire... Et il a dit ça me faisait tellement rire qu'on a décidé de l'appeler comme ça. Je trouve ça, mais c'est vraiment, c'est Alain Chabat, tu vois. C'est le génie du mec.
Non, mais alors, j'avoue, le dîner de con, pareil, les répliques, elles sont incroyables et c'est vraiment une époque. C'est incroyable.
Il y a plein de films comme ça que j'ai jamais vus. C'est vraiment les gros classiques. J'ai jamais vu en entier, qu'on s'appelle Le Père Noël est une ordure.
D'accord.
Là, je sais qu'il y a des gens que ça les. Genre, comment tu fais pour survivre et tout. Mais je le vis très bien.
Mais c'est pareil, j'ai regardé Star Wars très très tard.
Ouais, plein
de trucs comme ça, genre, je
ça me choque,
pas
mais je comprends. Voilà.
En fait, on a une petite thématique. Je sais pas pourquoi on voulait parler vraiment de ça, j'avoue. Parce qu'on a ici autour de la table des gens qui ont fait un peu des longues études et d'autres qui ont fait des études très courtes, n'est-ce pas, Marie? Je nous inclus là-dedans.
Sympa.
Voilà.
Et je me demandais si juste vous aviez eu des profs un peu zarbi ou des moments assez marquants avec des profs. Nous, bon, notre scolarité est un peu plus courte que
plus courte.
Vous deux, hein, je suis désolé, donc je vais le dire. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, un moment très très gênant avec un prof, soit des gros relous?
Bah moi,
j'ai
plusieurs années. Enfin, il y en a un qui m'a marqué, mais avec le temps, je me suis rappelé qu'en fait, c'était pas très drôle, c'est qu'il était en fait alcoolique.
Wow.
Et en fait, sur le moment, on le comprenait pas. On était juste des petits cons, on bordélisait son cours. Enfin, c'est comme ça peut arriver, un prof qui tient pas sa classe. Et effectivement, on faisait un peu n'importe quoi. Et en fait, avec le temps et en devenant adulte, que je me suis souvenu, je me suis dit, mais en fait, c'était pas marrant. En fait, il allait pas bien, ce monsieur. Et voilà, tu vois, c'est un souvenir que j'ai. Et alors, donc, beaucoup plus léger, hein, maintenant, on va jouer. un jour, mon prof d'éco au lycée, qui vient me voir, j'étais en train de réviser mon bac, hein, le bac était dans 2 mois, et il me dit, vous faites quoi cet été? Ça vous dirait de bosser pour moi?
Okay.
J'ai dit oui, j'ai bossé pour lui.
T'as fait quoi?
En fait, il quitte l'éducation nationale cette année, c'était sa dernière année. Ouais. Et en fait, c'était un chanteur musicien passionné qui se lançait définitivement dans la musique. Ça y est, c'était l'année. Et du coup,
qu'est-ce que t'as fait pour lui?
Il allait au Festival d'Avignon faire un spectacle là-bas dans le off.
Ok.
Et il cherchait quelqu'un pour lui filer un coup de main pour caler des programmateurs, coller des affiches,
scribler
des places.
C'est marrant de demander à des.
Et du coup, c'était vénère parce que c'était deux semaines plus tôt, c'était mon prof. Ouais. Écho, et c'est devenu un pote. On s'est retrouvé en boîte de nuit ensemble à Avignon. J'ai rencontré son mec, sa sœur.
C'est marrant.
Et c'était un super prof que j'adore et qui est plus un prof parce que c'est devenu un copain. Mais voilà, je suis devenu super pote et je suis parti en vacances avec mon prof d'éco après mon bac. C'est lunaire.
J'aime bien comme ta première anecdote était un peu glauque. Dur, ouais. Et là, d'un coup, tu vois, un petit twist. Toi, Marie, t'as eu des profs plus ou moins horribles?
Ouais, mais j'en avais un en fait. C'était mon prof de physique chimie, je crois, quand j'étais en. j'étais quoi, en troisième. Et en fait, il avait un accent, mais vraiment très très fort quand il parlait. Et la première fois, en fait, que j'ai dû écrire le mot bécher, je l'ai écrit bicher, avec un i. Parce qu'il disait son accent. Parce qu'il disait un bicher. Et donc, moi, dans ma tête, j'étais là, un bicher, B-I-C-H-E-R. Enfin, tu vois. Sauf que, du coup, je l'écris, il me convoque au tableau, je vais écrire, tu vois, les trucs, machin, j'écris le cours, machin. J'écris bicher, et là, il me dit, vous foutez la gueule de mon accent, mademoiselle Lopez. Et j'étais là.
C'est génial, ça.
Mais pas du tout, en fait. Genre, si, c'était genre mon deuxième cours de physique chimie, tu vois. Genre,
Ah, il t'a mis, mais à l'amende.
Et j'étais super gênée. J'étais là, mais pas du tout. Parce que je voulais pas qu'on me taxe, tu vois, genre de raciste ou je sais pas. J'étais là, genre, mais pas du tout, en fait. Non, mais pas du tout. Moi, dans ma tête, un bicher, c'était genre un bicher avec un guide, tu vois. Bref, et après, bon, j'étais super gênée. Et après, je lui dis, enfin, je suis allée m'excuser à la fin du cours, tu vois. Parce que j'étais là, non, mais attends, ça se trouve, là, le gars, il va me saquer pour le reste de mon année. Enfin, c'est foutu, tu vois.
C'est très naïf et très mignon.
Non mais voilà, il s'est avéré que le gars, il a dit non mais c'est pas grave, j'étais un peu énervée sur le coup, mais ça va, je vois bien que vous étiez de bonne composition. J'étais là, non mais tu... J'allais pas, enfin bref, j'étais pas insolente à ce point, tu vois. Donc ouais, c'était la petite anecdote.
Bah voilà. C'est 10 gênante. Sur 10, voilà. Ouais, 10 on note parfois un peu les...
Moi j'ai eu des profs géniaux, en fait, vraiment...
Les invités, on tolère, nous on veut les pires crasses.
J'ai pas de... En soi, ouais, j'ai eu vraiment des profs de ouf.
T'en as pas eu un zarbi à un moment? Un peu chépère.
Si, des zarbis de fou, mais je les adorais aussi, quoi. Enfin, non, après, par contre, moi, j'avoue que j'avais un peu un truc où je choisissais mes cours, quoi. Par exemple, premier cours, je me suis pas entendue avec le prof de déco, là, où je sais
pas. Ouais, là, tout ça, ouais. Bah, du coup, j'irai jamais.
J'étais en mode, bah non, en fait, mec, jamais je viens à tes cours, c'est mort. Et du coup, je faisais des cours par correspondance, mais juste dans cette matière-là, tu vois. Mais après, non, moi, j'ai trop kiffé le lycée.
J'avais eu un petit. Je repense du coup à quand c'est un prof de physique, voilà, dans le sud de la France.
À toi aussi.
Et je pense pas que ce soit lié à vraiment à cette matière-là, hein, mais il avait tout de coché. Donc aucune hygiène. Il sentait, mais c'était l'enfer, etc. Il perdait les copies, enfin la totale. Et après, moi, je connaissais assez bien une prof d'éco et un autre prof de physique qui nous disait, ah oui, non, mais moi, j'étais en cours avec ce gars-là. Et il se faisait... Alors nous, dans notre classe, ils s'en ont pris plein la gueule, tu vois.
Ah merde.
Et parce que c'était une cible trop facile, trop évidente, quoi. Et en fait, un prof que je connaissais bien, il disait, non mais quand il était dans notre classe, il se faisait déjà violenter par tous les gars de sa classe, tu vois. Et que bref, et c'était effectivement des... J'ai rien appris cette année-là pour plein de raisons. Hein, et je me rappelle un moment qui m'avait marqué, où il rend sa copie, etc., tout crasseux, tout truc, et fait, ouais, tiens, t'as eu 6, tu vois. Et le gars a fait non. Il fait quoi? Il fait non, j'ai pas eu 6, c'est impossible et tout. Non, je suis venu, j'ai... Et nous, on était là, genre, à qui il va faire la plus grosse connerie? On l'écoutait, l'élève, tu vois, en train de truc ça. Il dit non, c'est hors de question, je prends pas la copie. Il a repris sa copie. Le gars, il a jamais donné sa note.
Parce que le mec a refusé.
Ce mec a littéralement refusé.
Je très bien le genre de prof. Et tu dis qu'en plus, une carrière entière à se faire.
Bah, le gars, il avait 30-40 piges. Et je me suis dit, le temps va être long, lui, avec ses classes. Bref, voilà. On va écouter. Et justement, on a posé la question un peu aux gens s'ils avaient, tu vois, des petites anecdotes finalement avec des profs plus ou moins bien.
Je crois que Macron, il a une anecdote avec une prof. Mais pardon. Je viens d'y penser. Oh, bah voilà. C'est bon, la fin de la blague, il fallait la faire, elle est faite.
Voilà, c'est bon. On est sur France Inter, on fait rire. On a une première anecdote de la communauté.
J'avais un prof d'art plastique.
Ah, comment dire ?
Quand il venait te voir, concrètement, hein, il posait ses couilles sur ton bureau.
Oh non.
Mais premier degré, tu vois.
Dans l'angle, je vois très bien ce truc.
Il est en train de dessiner ton petit bonhomme et sa petite maison. Il est arrivé, il posait ses couilles comme ça. Il faisait.
Ah putain.
Bah, il y a besoin d'aide.
Putain, bah merci. C'était carré. Mais je vois très bien. Des positions de prof, où souvent, les gens qui sont à moitié affalés, ils font des L à l'envers,
qui se penchent sur le bureau de ton voisin et qui te présentent leur boule juste à côté de ton visage.
Mais là, poser les parties, j'avoue. Mais le pire, c'est que quand il a décrit, je voyais l'image. Hein. Je pense pas avoir vécu de ce truc-là, mais je vois un peu le prof qui est à moitié affalé. Et il pose littéralement, il a posé ses couilles sur la table. Quelqu'un l'a fait. On sait. Voilà, moi j'aime beaucoup cette anecdote. Est-ce qu'on en a une deuxième? Je crois qu'on en a une deuxième.
Salut. Alors moi, mon anecdote, c'était en cours de philo en terminale. Il faut savoir que je suis non-voyant et que j'avais un chien guide à l'époque qui donc se mettait sous la table et qui parfois se mettait à ronfler. Et moi, je porte des lunettes de soleil. Donc, pendant le cours de philo, j'étais au premier rang. La prof parle et pendant un gros blanc, tu entends une espèce de énorme ronflement. Et là, à ce moment-là, la prof me regarde. Je ne dis rien, je ne bouge pas. Elle regarde mon voisin. Et elle dit à voix haute à mon voisin, bon, par contre, vous pourriez peut-être lui mettre un coup de coude, hein, histoire qu'il se réveille.
Putain, j'avoue, le tact des profs.
Le fait qu'ils bougent pas et qu'ils sont chiens, qu'ils se mettent à ronfler. Et que... Ah putain, c'est très mignon.
C'est très mignon comme ça.
Parce que t'as envie de dire, oh le chien, il arrive. Ouais. Voilà.
Ah, mais t'as pris pour lui quoi.
Ouais, c'est ça. Je
pourrais faire gaffe.
Ah ouais, non. Ça a très bien terminé, là. J'aime beaucoup cette petite anecdote, merci beaucoup.
Mais quand même fou de pouvoir amener les animaux au lycée.
En cours. Alors là, je pense que c'est une condition très particulière.
Bien
tu viens
sûr,
pas avec
dire,
ton chien, ton
ça
chat.
Ça doit être un truc de ouf. Un des gens dans ta classe a un animal, quoi. C'est aussi.
Ouais. Jamais eu ça, ouais. Mais tant mieux, très bien qu'ils puissent le faire, là, pour le coup, c'est très cool.
Ouais. Est-ce qu'on y vient sur une petite nouvelle. On n'a plus de jeu, on n'a plus quoi ? Est-ce qu'on...
Bah, on s'était dit qu'on allait... Non, on n'a plus de jeu.
On a peut-être d'autres questions, il me semble.
Alors, nous, on a un jeu avec Marie. Non, je pas...
Alors, moi, j'ai vu Marie... Alors, déjà, tu as fait ta dernière vidéo sur... on en parlait tout à l'heure sur la représentation dans les dessins animés. Mm-hmm. Et ta miniature, d'ailleurs, c'est Rebelle. Et il me semble que tu as un tatouage...
Ouais, dans le bras, ouais. C'est un méga cliché.
T'as quoi ?
Je suis tellement un cliché à moi toute seule.
Un tatouage de Rebelle ?
Non. Tu vois le dessin animé Rebelle ?
Oui.
À la fin du film, en fait, bon, c'est un film que j'ai adoré parce que, en fait, ça parle de la destinée et puis surtout de l'émancipation de l'héroïne qui n'a pas de prince et tout. Enfin, j'ai toujours trouvé ça assez fort. Et à la fin du film, elle parle du destin et elle dit on a tous le destin étant chacun de nous, mais il suffit d'être assez courageux pour pouvoir le voir. Et je sais pas, écoute,
ça t'a parlé énormément.
Et comme je regarde les Disney en VO, donc je l'ai tatoué en anglais.
Ah, t'as la réplique
Waouh, okay. Voilà. J'ai beaucoup de tatouages, donc est-ce que ça compte vraiment ? Je ne sais pas. Ouais.
Est-ce que t'as d'autres trucs liés à Disney sur ton corps ? Non, c'est la seule. C'est la seule.
Bah, la phrase est très belle.
Oui,
pas forcément.
Je pense qu'elle évoque beaucoup de choses et puis c'est assez personnel, tu vois. Enfin, moi, je me serais pas vu me faire un tatouage de Blanche-Neige dans le dos, mais écoute, je sais qu'il y en a qui le font et tant mieux pour eux. Moi, je voulais un truc un peu clin d'œil parce que j'ai grandi avec les Disney, j'ai toujours trouvé ça a toujours bercé un peu mon enfance. Puis là, c'était un peu, voilà, je crois que je l'ai fait quand j'avais 20 ans et j'étais en mode, ouais, ça me parle, je sais pas, j'aime bien. De toute façon, voilà, mon corps est une œuvre d'art. Je sais pas.
Moi, j'ai pas de tatouage, mais c'est vrai que si je voulais en faire ce serait peut-être lié à Disney, je pense. Ouais. Un petit Wally. J'adore Wally.
Ah ouais, Wally.
Je sais pas, Yeezy, ouais.
Moi, j'avais vu le film. Bon, c'était on nous avait invité quelques. C'était à l'époque des blogueurs. On était des blogueurs. À l'ancienne, exactement. Et ils avaient invité des gens. C'était Allociné qui avait organisé une avant-première pour dire on va vous projeter le début du film, tu vois. Et c'était genre. 2 mois avant la sortie, tu vois. Wow. C'était vraiment bien en amont et tout.
Ouais.
Et il balance le début du. En plus de ça, le début de Wally, il est trop bien parce que les 15 premières minutes, c'est l'installation du personnage. Il n'y a pas d'action. Il se passe rien. Juste, il est là, il chill, il danse et tout, tu vois. Et c'est quand même hyper catchy alors qu'il n'y a pas de. Et en fait, juste avant de lancer le truc, ils disent bon, ben voilà, vous allez voir le début. Bon, en fait, on vous montre tout le film, hein, bien évidemment, c'est quand même plus sympa et tout. Et nous, on était en mode c'est vrai que jamais tu montres qu'un bout de film, ça n'a pas de sens. Ouais. Et c'est vrai que c'était la première avant-première du film, et en plus de ça, hyper tôt. Ouais. Et le film avait résonné en moi, c'était genre devenu aussitôt une grosse référence. J'adore tout de ce film, c'est trop, trop bien. Ouais. Un tatouage Wally, je ne suis pas sûr non plus.
Ça va jusque-là.
Ça va peut-être un peu loin. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que on a l'impression que tout vous oppose.
Mais non !
Dans quand même un peu des spécificités des trucs, non mais c'est vrai.
Des sphères
différentes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec Twitch, avec le jeu vidéo, en fait, vous avez pas mal de points communs.
Ouais.
Et vous avez finalement le même métier. Et je pense que la passion du jeu aussi, un de vos points communs, vous, c'est important pour vous d'avoir votre chaîne Twitch, mais de se dire, je vais pas faire ce que je fais déjà ailleurs, même si tu as ton émission Backseat qui parle quand même de politique et tout ça.
Ouais.
Mais pour toi, c'est important aussi d'avoir un peu le jeu.
C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est ma chaîne, j'ai besoin de pouvoir partager aux gens des trucs qui me font kiffer.
Le reste des passions, quoi.
La politique me fait kiffer, mais ça reste ma chaîne et elle est liée à moi. Et il y a des moments où, en fait, j'ai juste envie de jouer. Et d'ailleurs, on ne va pas parler de politique, je vous le dis tout de suite. Ça en déçoit certains, d'ailleurs, qui débarquent dans mon chat. On dit puisque tu es là, viens, on parle. Non, ouais. Mec, non. Là, je chill. Il est 2h du matin, je suis en train de faire voler un avion, en train de jouer à un autre jeu. C'est ma chaîne, c'est tranquille. Alors par contre, j'assume de perdre beaucoup de viewers à ces moments-là parce que c'est
tu
pas...
sens qu'il y a, oui, les gens te suivent quand même plus pour.
Ouais, et ben, mais je dis ça, mais en fait, depuis un an, je me rends compte qu'ils sont très nombreux quand même à me suivre quand je joue aux jeux vidéo et ça me touche beaucoup. Je suis très content. Je me dis, bah, putain, voilà, vous voyez une autre facette de moi et tout. Bah, tant mieux, let's go, on joue et c'est cool. Mais pour moi, c'est très important. Je continuerai toujours à garder la maîtrise de ma chaîne en faisant bah, j'ai envie de jouer, et bah, on va jouer.
Ouais, c'est, tu mets ta personnalité au centre plutôt que ton domaine de.
Complètement.
Toi aussi, Marie, c'est quand tu. Du coup, ça fait depuis quand que tu es sur Twitch
Ça fait un an là.
Ok.
Ouais, et en fait.
On a un gâteau qui arrive.
Ouais,
venir, ça, c'est pas vrai.
En fait, j'ai toujours voulu me lancer sur Twitch parce que j'ai toujours. En fait, jouer aux jeux vidéo, c'est un truc que je fais depuis toujours, mais tu vois, c'était pas quelque chose que je voulais partager parce que je me sentais pas hyper légitime. Et puis, parce que tout simplement.
À toi, c'était un frein. Genre, tu t'es dit, non, mais là, je.
Ah ouais, c'était vraiment compliqué. Puis j'ai testé, en fait, Twitch il y a genre 6 ans. Et en fait, c'était bon, bah, terrible parce que très misogyne, très compliqué. Surtout moi, je joue en plus à un jeu qui est un peu. Ouais, qui est très miso. Hein. Je joue à World of Warcraft. Donc,
Warcraft, il y a une communauté.
Ouais, il y a une grosse communauté.
Je connais pas mal de.
Moi, je connais beaucoup de femmes qui jouent, en fait, mais la commu qui parle, elle est.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de nanas qui jouent, mais la commu est un peu trash. Et donc, j'avais testé, puis j'avais pas du tout aimé la communauté. Donc, c'est pour ça que pendant des années, je me suis un peu réfrénée. Je me suis dit, non, franchement, j'ai peur, ça va pas le faire. Et puis, en fait, pendant le confinement, j'ai beaucoup regardé Twitch. Et j'ai vu toutes ces nanas, en fait, hyper bien.
Qui tu suis, justement, je me
demandais. Bah, écoute, Amphi, moi, au début, je connaissais pas du tout la plateforme. Donc, j'ai commencé à voir Jill, Magla, après, je suis tombée sur Dejna. Enfin, voilà. Et puis après, plus dans des streameuses un peu plus niche. Donc là, Kilira, que j'adore, qui fait des jeux d'horreur, ça me fait trop rire. Enfin, voilà. Et en fait, je regardais ça et je me disais, non, mais en fait, c'est trop dommage de pas pouvoir faire un truc que j'aime. Et donc, je me suis lancée.
T'avais l'exemple aussi de plein de meufs qui se disent, c'est pas grave, moi, j'y vais à fond dans ma passion.
C'est ça, exactement. Et par contre, moi, sur Twitch, je fais rien qui a un rapport avec mes vidéos sur YouTube ou sur mes réseaux.
C'est
genre
pareil,
là, moi, c'est vraiment limite mon exutoire. C'est un truc que je fais que pour le kiff. Je fais que des trucs que j'aime, je considère pas Twitch comme mon travail.
Oui, d'accord. Okay.
Parce que franchement, bon, bah moi, c'est
une
pas
passion
du tout,
presque, c'est vraiment un truc.
Bah, cool, d'ailleurs, je le fais, tu vois, je le fais le soir après ma journée de boulot, je le fais quand je rentre chez moi, quand j'ai du temps, et je le fais vraiment pour le kiff. C'est le moment
où. Mais tu le fais quand même bien, si je peux me permettre, parce que t'as quand même ton agenda, ton planning, etc.
Oui, parce que je trouve que c'est le meilleur.
C'est organisé, c'est tout.
C'est organisé, voilà. C'est le moyen aussi de créer un rendez-vous avec la communauté. Et j'adore, en fait, avoir cette interaction en direct avec les gens. Je crois que c'est ça qui me manquait un peu sur YouTube. Et je l'ai trouvé sur Twitch, et je trouve ça vraiment vraiment cool.
Mais c'est la meilleure raison de streamer. Excuse-moi, c'est la meilleure raison de streamer, d'avoir juste envie de le faire pour son propre kiff. Les streamers qui se forcent à streamer, ça se voit. C'est là, vous êtes pas en train de passer un bon moment, les gars.
C'est ça qui est dur quand tu fais des vidéos YouTube ou des choses. Tu sais choisir tes prises, tes trucs, ou tu enlèves ce qui te dit ouais bon là j'étais peut-être pas dans le bon mood ou quoi, ou ne pas mettre la vidéo en ligne, tu vois. Et je comprends, moi, tout ce, tu sais, je vois pas mal de streamers qui disent non, là je sais que j'avais en planning, j'avais prévu de faire ça et ça, mais finalement j'ai des jours off et tout, parce qu'en fait comme c'est tellement lié à la passion et au bien-être et tout, et du coup les gens préfèrent. Et ça, ce que j'aime bien, c'est que les gens le comprennent. Enfin, tu vois, ça a été bien expliqué. Et après, je comprends, moi, tout ce truc où c'est con, hein, mais nous, dès qu'on tombe les yeux sur le chat et tout, tu sais, tu passes toujours à un bon moment. C'est une interaction assez simple. C'est aussi pour ça que moi, j'adore cette émission tous les lundis soirs, parce que je sais que voilà, c'est un vrai moment en direct avec les gens. C'est cool. Bon, on fait des belles rencontres autour de la table, mais aussi avec l'aspect live est aussi très important. Donc, je vois bien ce truc-là. Et surtout qu'il change, tu te dis, c'est pas genre une sorte de petit dérivé de ton métier. C'est vraiment un truc, genre, je trouve, qui est assez différent.
Ah ouais, moi, j'ai pas la même communauté sur Twitch que sur mes autres réseaux. Je la vois, elle est complètement différente. Ah ouais. C'est pas les mêmes personnes, en fait.
Mais il y a de plus en plus de YouTubeurs, là, d'ailleurs, qui se mettent à Twitch à fond.
Le confinement a accéléré un mouvement qui avait déjà commencé.
Mais est-ce qu'il y a aussi un ras-le-bol, peut-être un peu, de devoir préparer des vidéos, que ça prenne plus de temps, que
sans être un ras-le-bol,
que
je pense pas, c'est ce que dit Marie.
Pas direct, il est pas le même.
C'est pareil, d'aller trouver autre chose, c'est pas forcément un ras-le-bol.
Ouais, c'est ça. C'est juste, moi perso, je trouve pas sur Twitch des trucs que je trouve sur YouTube. Enfin, tu vois, c'est chaque plateforme a ses spécificités. Mais c'est sûr que sur Twitch, en fait, c'était ça qui me manquait, moi, sur YouTube, c'était l'interaction. C'était vraiment juste le retour immédiat des gens qui fait super plaisir, et puis partir un peu aussi à la rencontre de ta communauté, quoi. C'est super cool. Enfin,
c'est marrant parce que tu peux avoir, tu sais, beaucoup d'abonnés sur YouTube et dire finalement j'ai pas d'interaction, alors que c'est que la plateforme, elle est faite comme ça. Et c'est là où Twitch sort un peu de
Et du coup Twitch crée un lien avec ton public très particulier.
Exactement.
Après, je suis pas YouTuber, donc je pourrais pas comparer, mais
et du coup, une petite question même globalement sur YouTube, puisque toi tu fais partie des des dinosaures de YouTube. Rejoins-moi dans le côté poussiéreux d'Internet. Comment tu sens un peu l'évolution, le truc? En fait, quand tu parles de Twitch et tout, je vois que t'as un vrai envie, un vrai truc à découvrir. Est-ce que tu t'es lassé de la plateforme ou comment ça se passe pour toi, ta vision de ton métier là aujourd'hui?
Bah écoute, oui, c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on est là que forcément il y a un moment de voir les nouvelles générations arriver, ça peut soit faire peur, soit être challengeant. Moi, j'ai pris le parti de me dire que c'était challengeant et que il fallait que je me remette en question sur certains peut-être formats qui devenaient poussiéreux en fait, que je faisais depuis des années, qui aujourd'hui correspondent plus forcément à ce que les gens ont envie de voir. Mais à côté de ça, toujours trouver quelque chose qui te plaît, parce qu'il faut pas oublier qu'avant tout, enfin, c'est toi que t'exposes. Donc si ce que tu fais, tu t'aimes pas, forcément ça va se voir et ça va se ressentir.
Déjà posté des vidéos comme ça où tu postes et tu vas à reculons.
J'ai déjà posté des vidéos parce que c'était des vidéos trendy, tu vois. Mais c'est horrible parce que c'est un peu l'algorithme qui te pousse à faire ce genre de choses, parce que dès que tu fais quelque chose qui n'est pas dans les codes, et ben en fait t'es bien moins mis en avant. Enfin, je pense que ça dépend. Pour toi, c'est pas pareil parce que j'ai l'impression que toi, t'es le seul à qui l'algorithme ne fait pas de mal avec tes vidéos. Écoutez, parce que t'en sors une de temps en temps.
Je suis pas trop la tendance et je ne sais pas pourquoi.
Ouais, ça marche.
Ça fait encore des vues, donc c'est un miracle. J'ose rien dire. Mais oui, c'est vrai que pour moi, je m'interdis de faire des vidéos trop tendance ou quoi, parce que ça va casser mon plaisir instantanément.
C'est ça.
Et après, c'est sûr que bon, bref, on a tous un. Moi, je sais que j'ai une place un peu différente et que j'estime privilégiée parce que je suis là depuis très longtemps. Il y a plein de gens qui veulent bien continuer à regarder mes trucs, même si c'est pas du tout des trucs tendance ou quoi. Donc, je m'estime chanceux, mais je pense qu'effectivement, on peut comprendre que parfois tu sois un peu décontenancé sur plein de trucs qui évoluent et tout, et que voilà. Quoi.
Ouais, et puis voilà, c'est aussi le. Parfois, ce qui est difficile, c'est peut-être l'incompréhension de ce que les gens veulent voir. Et du coup, un truc que tu penses qui va marcher marche pas, un truc que tu penses qui va bider en fait marche grave, et t'es là mais c'est en fait ça, moi, cette espèce de flou artistique où tu sais plus vraiment en fait ce qui marche, ce qui marche pas. Donc là, moi, j'ai décidé que je faisais ce qui me plaisait avant tout, parce que je crois qu'en fait ça, c'est un truc au moins je suis sûre. et voilà. Et puis oui, bah, le fait de se diversifier, d'aller sur des plateformes comme TikTok ou Twitch, mais c'est, enfin voilà, faut vivre avec son temps. Moi, j'ai pas envie, tu vois, d'être la candidate de télé-réalité dépassée dans quelques années qui essaie de s'accrocher.
Il y a Magali Berda qui aimerait bien te signer là. Tu peux, hein, si tu veux.
Ouais, sinon, merci. Mais
oui, t'es obligé d'anticiper un peu, voir comment ça va évoluer.
Ouais.
Toi, Jean, c'est quoi un peu les actus qui vont arriver, enfin les petites nouveautés? Y a... Donc toi,
moi, je suis un dinosaure de Twitch.
T'es un dino de Twitch. Du coup, tu as ta chaîne ton émission tous les jeudis.
Ouais,
ça existe depuis maintenant.
Ça fait depuis l'été dernier. En fait, c'est le projet que j'ai créé pour la présidentielle. C'est, je voulais offrir au public de Twitch leur talk-show politique à eux. Qu'on arrête de dépendre de la télé pour parler de politique, qu'on crée nos propres espaces dans lesquels...
Il n'y avait pas de grand rendez-vous
Non, en politique pure, ça n'existait pas du tout. Il y avait mes lives que j'étais le premier à faire à une époque même où ce n'était pas autorisé sur Twitch. Et du coup, j'ai voulu créer ce rendez-vous-là pour que les politiques viennent à nos conditions, à nous, le monde de Twitch. Donc ça implique, on est en suite, en basket, on se tutoie, on se marre. Mais en fait, on parle aussi de sujets extrêmement sérieux. Mais on est chez nous. Et surtout, le bonheur immense de ne pas avoir à redéfinir les termes qu'on utilise quand on parle de numérique. Genre une story, c'est bon, tout le monde sait ce que c'est sur le plateau.
Par contre,
un congrès, là, on va l'expliquer, tu vois. Mais c'est exactement l'inverse quand je suis sur France Inter ou à la télévision. Là, je dois définir à chaque fois que je peux. Twitch, vous savez, cette fameuse plateforme qui appartient à Amazon, où les jeunes, priser des jeunes et tout. Alors qu'à l'inverse, un congrès, tout le monde sait ce que c'est, tu vois. Là, c'est exactement là. Donc ça, c'est mon vrai plaisir, c'est cette émission. Et là, je vais avoir des grosses émissions dans le cadre de la présidentielle avec des partenaires.
Là, on est d'accord que c'est une année hyper riche.
Pour moi, c'est une année extrêmement importante. 2017 l'avait déjà été à l'époque dans des proportions moindres, mais pour moi, c'est très important. Et donc, du coup...
C'est ton année, Jean.
C'est mon année, ouais.
Time to shine 2022.
Du coup, j'ai des partenariats. J'en ai un qui va arriver avec le mouvement mutualiste, la fédération des mutuelles, en fait, qui s'occupe c'est les complémentaires santé, qui organise une grande opération. Il l'avait déjà fait en 2017, où ils vont faire défiler les candidats un jour, au début du mois de mars, le 1er mars. Ils vont faire défiler tous les candidats pour parler de leur programme en santé, juste santé.
Okay.
Prévention, financement, sécurité sociale, assurance maladie.
Et ça, c'est des partenaires, du coup, pour toi.
Et ça, c'est un partenaire, ouais, qui finance, du coup, l'opération et grâce à qui, du coup, je vais pouvoir avoir un plateau, présenter tout ça. Et donc, on va faire des émissions explicatives pour le public de Twitch sur les programmes des candidats en matière de santé. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils disent, ils vont dans quelle direction et tout. Donc, ça, je suis assez content de ce projet-là, ouais. Voilà. Et sinon, tous les jeudis, ouais, bah, tous les jeudis, Backseat avec des invités de première partie. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus, ça m'intéresserait beaucoup. Et non, mais du coup, tu vois, c'est aussi un challenge dans Backseat, c'est que j'invite des potes du monde de YouTube, de Twitch, qui parlent pas de politique, dans le but d'avoir la discussion qu'on a eue au début de l'émission, là, tu sais, mais et toi, la politique, comment tu te sens par rapport à ça? Et j'y tiens beaucoup à ce moment-là de l'émission, parce que sinon, on devient une émission où il y a que des passionnés autour de la table, on se parle entre nous. Et en fait, non, la politique, encore une fois, ça doit appartenir à tout le monde. Donc, voilà.
Grosse année pour toi, du coup.
Grosse année, beaucoup de travail.
Et est-ce que tu vois un peu après ça, t'as peut-être d'autres plateformes ou d'autres émissions que t'aimerais développer?
Eh bah, ben, ça va vous faire marrer, mais YouTube, c'est un truc auquel je réfléchis.
Ah ouais,
ouais. Parce qu'il y a des manières et des manières de parler de politique sur YouTube, mais il y a aussi des manières de faire des formats très recherchés, très écrits, où tu apportes énormément d'informations à des gens très largués, et surtout à une certaine génération. Parce que quand tu regardes des docus en politique, bah, c'est produit par des gens qui ont 50-60 ans, qui du coup ont des manières de voir la politique.
C'est marrant ça que tu débarques sur.
Enfin,
que
ça te trotte un peu. J'y pense. Après,
on va s'abonner.
J'ai toujours fait des trucs. J'ai toujours fait des trucs que je consommais moi-même. Par exemple, je fais pas de podcast et j'en ferai jamais parce que c'est vrai que les podcasts c'est un truc que je n'écoute pas.
Ok. Voilà, bah, on embrasse tous les gens qui nous écoutent parce que le podcast c'est très suivi, 301 vues.
Mais tu vois, je me forcerai jamais à faire un truc. TikTok. Bon, bah, je l'utilise peu cette appli, donc c'est vrai que je ferai jamais de TikTok. En tout cas, pour l'instant, non.
Toi, tu vas vraiment par. Tu essayes pas de suivre la trend.
Non, faut que je sois le premier consommateur. Si je le suis pas, j'y vais pas et c'est pas grave. Ouais.
Et ton but ultime avec tout ça, c'est quoi? C'est vraiment de vulgariser la politique ou c'est.
Ouais, c'est que le plus. C'est un but fantasmé, mais c'est que le plus possible de jeunes se sentent à l'aise avec l'idée d'avoir une opinion ou pas en politique, mais se sentent à l'aise avec l'objet. Genre, nos politiques, ça nous appartient. On a le droit d'en penser quelque chose, on a le droit, enfin c'est pas un truc réservé aux vieux ou aux journalistes ou aux gens qui ont fait des études, ça devrait dans un monde démocratique idéal appartenir à tout le monde. Donc ouais, mon fantasme c'est que la politique devienne un sujet de conversation cool entre gens, voilà.
C'est très bien. On arrive malheureusement déjà à la fin de l'émission. Pas si vite. À la fin de l'émission, on a toujours les recommandations. Donc, c'est un petit peu les pépites que vous avez vues sur Internet et que vous souhaitez que tout le monde qui nous écoute ou nous regarde clique également. Et est-ce que, Marie, tu as une petite reco?
Ouais, je vais parler de mon pote Jordan Périgaud qui fait des enquêtes paranormales. Donc, qui va.
C'est sur quelle plateforme?
C'est sur YouTube.
Jordan Périgaud.
Jordan Périgaud, avec qui j'ai déjà fait deux enquêtes au château de Fougeray, réputé le château le plus hanté de France.
C'est de l'urbex?
Alors, il fait de l'urbex, il fait aussi des vidéos donc, sur des lieux qui sont réputés pour être hantés, mais privés. Donc, il a des autorisations de tournage, il y passe une ou deux nuits, il a plusieurs appareils. Ouais, moi j'ai passé deux nuits au château de Fougeray, je peux dire que j'ai pas fait la maline. Et,
est-ce que t'as vu des trucs paranormaux du coup?
Tu veux que je te raconte?
T'as ressenti des trucs?
Alors moi déjà je suis hyper sensible à tout ça, c'est-à-dire que je sens des trucs mais
il y a des trucs là ici par exemple.
Tu sais qu'il y a déjà un médium.
Je commence à poser des questions n'importe quoi. C'est la fin de l'émission, ok?
Tu sais qu'il y a déjà un médium qui est venu sur ce plateau et qui a dit qu'il ressentait des trucs.
Écoute, on en parlera peut-être pas là, mais quoi qu'il en soit, en fait, au château de Fougeray, on a eu un truc, on sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a un petit van, tu vois, un petit jouet comme ça qui a changé de pièce. On était tout seul dans le château.
Wow.
Il passait du deuxième étage au rez-de-chaussée.
Je supporterais pas.
Il y a la vidéo sur YouTube. Non, mais on a fait une syncope, hein, vraiment. Oh. Et il y a la vidéo sur YouTube. Et je peux mettre ma main coupée que nous n'avons touché à rien. Donc bref, faut aller voir sa chaîne, c'est hyper cool.
Okay.
Si vous êtes branché paranormal, tout ça, ou même urbex. Bah, c'est cool, voilà.
Mais toi, tu vas faire plusieurs vidéos là cette année, c'est ce que tu as annoncé.
Mais moi, en fait, il m'a réconcilié avec ce côté-là que j'osais pas non plus aborder. C'est un peu l'année au moins où je fais des trucs que je kiffe. Ouais. Et donc j'ai commencé là vraiment parler des expériences paranormales de mes abonnés ou de moi. Et j'aimerais dans le futur effectivement pouvoir aller visiter des lieux.
On fera peut-être une émission comme ça un peu. On avait écouté déjà des histoires d'horreur. C'est vrai qu'on aime bien écouter. C'est pour ça qu'on a écouté notamment tout à l'heure des petites anecdotes des gens qui... Et du coup, on s'est dit peut-être un truc paranormal. On est un peu curieux quand même.
J'ai jamais dit ça.
Rappelez-moi, j'ai plein d'anecdotes. Oh, moi, je peux arriver, je vais tout vous raconter.
On te dira. Jean, est-ce que tu as une petite reco, s'il te
plaît? Moi, il y a une chaîne YouTube qui m'a beaucoup marqué et que je suis religieusement chaque semaine, qui s'appelle La Chaîne Agricole.
D'accord.
Et elle porte très bien son nom, c'est-à-dire que c'est un agriculteur.
Incroyable.
Qui fait une vidéo par semaine, qui publie le mardi à 7h du mat en plus, pour bien appuyer sur le côté on se lève tôt, hein, nous les agriculteurs. Et en fait, il te montre
son quotidien,
mais en fait, tu te rends compte de ce que ça veut dire être agriculteur. C'est pas juste labourer un champ, c'est changer les pneus du tracteur pour passer aux pneus d'été. Mais tu as vu la
les
taille
pneus
du
pneus d'été. Alors déjà, je découvre les pneus d'été d'un tracteur. Hein.
Et en fait, le mec te montre ce que ça veut dire être agriculteur, c'est-à-dire des trucs très concret de en fait, si je change pas les pneus, je peux pas labourer dans deux semaines, sauf que la météo est en train de changer, donc faut que je le fasse maintenant. Donc en fait, ça m'arrange pas parce que j'aurais dû le faire. Et en fait, voilà, il te montre les compétences qu'il a sont lunaires. Il s'y connaît en mécanique de tracteur, de tout ce que tu veux. Il s'y connaît en agro, tout ce que tu veux. Et moi, le parisien que je suis, je regarde ça avec admiration en disant, j'ai pas le quart du début de ses compétences, je comprends rien à son monde, à son univers. Et en même temps, bah, ça me bluffe et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un de passionné qui me parle. Ouais, moi, je suis,
bah, lui,
il est passionné par son métier, j'ai une admiration folle pour lui. Et quand derrière, tu sais, quand j'entends des politiques parler des agriculteurs, bah, je pense un peu à lui, tu vois. Je me dis, en fait, il parle de. Ouais, non, mais c'est ces gens-là, enfin, qui bossent, quoi. Et qui ont un métier très dur, mais en même temps, un métier passion. Et puis, sur la philosophie qu'il a derrière, il nourrit des gens. En fait, c'est magnifique comme métier. Ça, je nourris des gens.
Je suis assez d'accord avec ce truc-là. Ouais, ça, c'est fou. Et puis, c'est des belles machines. On pourrait dire ce qu'on veut.
Grave. Donc, allez voir La Chaîne Agricole.
La Chaîne Agricole. Très bien. Sur YouTube.
Ouais.
Charlotte Vautier, une petite reco peut-être, c'est la fin de l'émission.
Alors moi je me suis dit, il y a Jean, ça parle de politique, donc je vais vous conseiller... je vais vous conseiller Bonjour Internet, qui a un compte Instagram...
Bonjour Internet.
Bonjour Internet.
Okay.
Qui a un compte Instagram qui répertorie un peu les pépites
des politiques
sur TikTok et sur YouTube, sur Instagram. Et il y a vraiment des trucs de fou.
Enfin, c'est des mèmes, on peut dire.
Ouais, c'est des mèmes un peu.
Il y a des photos d'archives, des moments absurdes.
Ouais, voilà. En fait, c'est pas mal comment les politiques se débrouillent. Il y a à la fois des mèmes et à la fois comment les politiques gèrent les réseaux sociaux. Et il y a des, il y a vraiment des trucs hilarants.
Bah déjà juste pour le nom de ce compte Instagram.
Ouais.
Bonjour Internet.
Bonjour Internet.
On aurait dû y penser.
Non, je vous le conseille vraiment fort. Il y a par exemple Castaner, toutes les stories de Castaner, qui est en fait un grand poète. Qui prend le ciel en photo et qui,
c'est mon kit.
Aujourd'hui les oiseaux chantent, tu vois, enfin c'est avec un truc un peu incompréhensible ensuite.
C'est beau de voir les vieux qui ont Insta et tout,
c'est un peu touchant.
Ouais, c'est un peu mignon,
c'est un peu gênant aussi, mais un peu touchant.
Et moi ma petite reco, c'est la chaîne Internet. Donc c'est comme Internet mais sans le T, à savoir Mathias Gerbig et Benoît Blanc, qui sont deux comédiens que j'adore et que je suis depuis très très longtemps. Ils ont fait pas mal de web-séries et de vidéos très absurdes. Tu parlais d'absurde, tu sais, là, eux, c'est le climax de ce qui est débile. Et ils font un financement participatif, donc donnez vos sous à Internet pour faire une web-série dont vous êtes le héron. Donc c'est parfaitement ce que vous imaginez, c'est une vidéo dont vous êtes le héros, mais vous êtes un héron. Mais littéralement un héron de 2 mètres, hyper impressionnant. Ils ont fait un costume exceptionnel, et vraiment avec des POV où t'es dans les cieux, et voilà. Et ils m'ont proposé de faire un petit guest, donc je vais faire
génial.
Il y aura un embranchement,
rien que pour le titre.
Il y aura un embranchement, donc la vidéo dont vous êtes le héron sur Ulule ou Kiss Kiss Bang Bang,
incroyable,
de la chaîne Internet. Foncez ça, donnez vos sous, c'est un hyper beau projet. Et puis c'est des créateurs, comme on fait plus trop de fiction sur Internet,
on parlait
tout à
l'heure en antenne, c'est vrai.
Et là c'est vrai que c'est le climax de tout ce que je kiffe, et ces gars là sont très 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 brillants, et on les voit un peu partout d'ailleurs sur Internet, mais là c'est leur projet. Voilà,
c'est eux qui
tout
avaient
simplement
fait la vidéo du bureau, là, la fameuse
la vidéo du bureau
où il y a le stagiaire.
Ah, ils ont fait bien sûr une web série avec des oui, où il y a Seb Lafrite dedans, très jeune, et
qui est
très drôle.
Incroyable.
Voilà, eux ils sont exceptionnels.
Internet, ok.
Nous arrivons à la fin de l'émission, et je tenais à vous dire que j'ai passé un très bon moment.
Pareil, on a appris plein de choses.
Voilà, sur les emojis, sur voilà. on a plein de domaines très très variés, et j'aurais aimé que Pierre soit là, mais c'est pas grave, il sera là la semaine prochaine. Je tenais à vous remercier. Merci beaucoup pour ce moment. Merci le chat, merci les modérateurs, merci la régie, merci les abonnés Patreon, et on se retrouve la semaine prochaine. Simplement.
À la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'est
merci à vous. Merci. Ciao, ciao.
Salut, ciao.
Salut.
Vous venez de suivre 301 vues. Nous remercions tous les contributeurs sur Patreon qui nous aident à rendre l'émission possible. N'hésitez pas à aller sur patreon.com/301vues pour nous soutenir. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités. Et abonnez-vous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.